France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. De 1971 à sa mort à 50 ans, en mai 2000, le compositeur Olivier Greff a consigné dans des cahiers ses impressions, pensées et réflexions. Ce carnet de bord, comme il le désignait, permet d'approcher au plus près cette personnalité singulière, autant traversée par le doute que par des convictions inébranlables, permet également de découvrir ses goûts et de revisiter la vie musicale de la fin du XXe siècle. Son frère, Jean-Jacques, a opéré une large sélection de ses textes et les a réunis en un épais recueil de quelques 500 pages qui se lisent comme le roman d'une vie intense et passionnée. Olivier Greff, journal, édité par Jean-Jacques Greff, aux éditions Edam Musiquet. Vergiftet sind meine Lieder, extrait du Wiener Konzert d'Olivier Greff par Nell Froger, soprano, accompagné au piano par le compositeur Olivier Greff. C'était un enregistrement de la création à Paris, salle Cortot, le mercredi 24 avril 1974, très exactement. Bonjour Jean-Jacques Greff.
Bonjour.
Vous êtes donc le frère aîné de Olivier Greff. Vous êtes ingénieur, enfin polytechnicien de formation. Vous avez ensuite travaillé dans la publicité. Vous écrivez sur votre site que vous avez été un jeune cadre dynamique, puis vous avez été journaliste. Vous écrivez depuis les années 90 de nombreux romans, puis vous développez également des jeux pour les enfants. Et sur votre site, on peut lire le roman de votre famille. Est-ce que ce travail, cette mise au public comme de votre vie familiale, s'apparente au travail que vous avez fait avec les écrits de votre frère Olivier?
Ce que je peux dire, c'est que c'était la même famille. Et disons, j'ai pris conscience peu à peu. À partir du moment, surtout, où je dirais où je suis devenu journaliste et où j'ai interviewé des gens, que ma famille avait des choses à raconter et qu'elle était intéressante. Ouais. Donc, ça joue un rôle dans l'inspiration d'Olivier. Par exemple, mon père a été déporté à Auschwitz. Et il est resté un an et il racontait... On dit que les déportés ne racontent pas parce qu'ils ont l'impression que personne ne peut les comprendre. Mais... ça ne veut pas dire qu'ils racontent pas à leur propre famille, parce que bon, Je ne sais pas si nous on comprenait, si. Et ils en parlent entre eux. Et donc ça, donc c'était une famille qui n'était pas complètement une famille ordinaire. Mmh. C'était une famille d'ailleurs ramenée à seulement deux personnes. On avait notre père, notre mère. Puis tous les autres, bah, ils étaient partis, voilà, dans les chambres à gaz, etc. Enfin, en Pologne, parce que nos parents étaient venus de Pologne.
De Pologne, c'est ça, oui. Voilà. Ouais. Et votre père est venu à Paris, soi-disant pour faire de la musique.
Il devait... Mon père était pianiste c'est au ça, départ, voilà. En effet. Mon père a étudié le piano. Il était dans la classe de concerto au laboratoire de Lvov. Ouais. Enfin, ils appelaient ça Lvov. Maintenant, c'est en Ukraine, ça s'appelle Lviv. Ouais. À l'époque, c'était une province polonaise qui s'appelait la Galicie orientale. Ouais. Quand mon père était jeune, c'était l'Empire austro-hongrois. Et au début de la guerre de 14, les Russes sont arrivés. Et mon père, avec sa mère, ses deux sœurs et des cousines, une tante, etc., se sont réfugiés à Vienne. Il a passé un an à Vienne. Et il est devenu pianiste et il a commencé le piano enfant. Il était un très bon pianiste et donc il a étudié au conservatoire de Lvov. Et il venait d'une petite ville qui s'appelle Sambor. Et dans cette ville Sambor, il y avait un maire. Le maire de la ville s'appelait Monsieur Steuermann. Et le fils de Monsieur Steuermann, qui s'appelait Edward Steuermann, c'était un pianiste très
bien
important.
Sûr, bien sûr, oui,
c'était le pianiste de Schönberg, en gros, pour
exactement.
Simplifier.
Oui, oui.
C'est lui qui a fait répéter le Pierrot Lunaire, par exemple, à la cantatrice qui n'était pas une cantatrice, etc. Et donc, il était dans le jury du prix de concerto décerné à mon père au conservatoire, etc. Et il lui a dit, mais je crois que vous pourriez aller étudier à Paris, etc. Il lui a fait une lettre, apparemment, de recommandation à Alfred Cortot. Et donc, mon père est parti à Paris. Mais il avait une fiancée à cette époque-là, qui a dit moi je me marie pas avec toi si tu deviens pianiste parce que c'est pas un métier.
C'est pas une vraie vie, oui, c'est ça. Ouais,
un vrai métier.
Un vrai métier. Donc il s'est orienté vers la médecine.
Voilà, alors. Du coup, d'accord. Il a commencé des études de médecine au lieu de continuer le piano, mais il continue à jouer du piano et c'était un déchiffreur extraordinaire. Il s'entraînait pas, enfin je veux dire, il s'exerçait pas au piano, de temps en temps il jouait du piano mais c'était comme s'il lisait un livre, il lisait de la musique. Ouais. Et mon frère
il a transmis ça à
voilà,
votre frère.
Olivier était renommé pour ça.
Ouais.
Et on peut pas appeler ça héréditaire, enfin, on va dire
non, bien sûr, mais...
héritabilité, ça s'appelle. Mais enfin, voilà,
on sait qu'il était renommé pour pouvoir déchiffrer des versions même contemporaines les plus compliquées. Alors, revenons, Jean-Jacques Greff, à ce journal qui n'en est pas un, hein, c'est bien précisé en introduction, mais donc, ce sont ces impressions qu'il a consigné dans ses cahiers, vous le dites dans une petite note introductive, et vous avez opéré une sélection pour chacun de ces textes. Vous dites si vous l'avez conservé intégralement ou s'il l'avait raccourci. Et puis d'ailleurs, il y a une bonne partie de réflexions sur les compositeurs qui sont passionnantes que l'on peut lire sur le site oliviergreff.com. Voilà, j'engage d'ailleurs tous nos auditeurs à consulter ce site qui est extrêmement bien fait. On peut découvrir sa musique, sa biographie, les dates de concert, les disques, vraiment, après on est incollable. Oui. Jean-Jacques Greff, le parcours de votre frère, assez brillant, hein, parce qu'il a été élève donc au Conservatoire de Paris, élève en composition de Tony Aubin. Oui. Il avait de nombreux prix, mais il s'est orienté. Il était pianiste et également compositeur. On comprend qu'assez vite, il veut s'orienter vers la composition.
Oui.
Mais de nombreux écrits en témoignent. Quand il avait une vingtaine d'années, il a beaucoup de mal à se faire jouer, à se faire reconnaître comme compositeur.
Je suppose que c'est difficile pour tout le monde au début.
Pour
tous
les jeunes,
c'est normal.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une question quand même, excusez-moi de vous interrompre, d'esthétique ?
Oui, alors c'est évident. Ce qu'il dit d'ailleurs dans son... Ce qui est quand même un journal. Par moment, ce n'est pas un journal, mais par moment, c'est un journal. Il dit qu'il a essayé la musique... contemporaine en vogue à ce moment-là.
L'avant-garde, on va dire, entre grosses guillemets.
Oui. Donc, moi, à l'époque, nous habitions boulevard Saint-Germain, enfin, boulevard Saint-Marcel, d'abord dans le 5e arrondissement, puis dans le 7e. Et moi, je fréquentais ce qu'on appelait le domaine musical. Mm-hmm. Vous voyez, j'allais au théâtre à l'Odéon, j'avais un abonnement, et puis j'allais au domaine musical. Alors, je lui racontais, j'achetais des disques aussi. Donc, nous écoutions cette musique. Il a essayé, donc il dit qu'il a composé des œuvres dans ce style-là. Je trouve qu'il était par moments un peu vantard, donc il se vante dans son journal que il pourrait encore y arriver et faire mieux que ceux qui font ça. Mm-hmm. Bon, je sais pas de qui il voulait parler. Et en tout cas, il a essayé, mais ben, il ne voulait pas abandonner la musique d'avant, les racines en quelque sorte. Ce qui était d'ailleurs, il faut le dire, aussi le cas de Schoenberg et de ses amis. Ils écrivaient aussi du Bach d'une certaine façon. Ils avaient bien gardé tout un tas de choses de la musique classique. Mais bon, il écrit de la musique, puis par moments, elle est en partie tonale, pas complètement, mais plus, beaucoup plus que celle qui était en vogue à l'époque dans les années 60, on va dire, ou 70. Et donc, il était un petit peu mis à l'écart, ou enfin bon, il avait du mal à être connu.
Le final de la sonate de guerre, une toccata par Olivier Greff, une œuvre de 1977, un enregistrement de 1978. Jean-Jacques Greff, on ne va pas pouvoir résumer, on n'aura pas le temps, et puis d'ailleurs c'est pas l'objet de cette émission, la vie de votre frère Olivier, mais on croise dans ce journal, dès sa jeunesse, quelques comme grandes figures comme Dali, Berlioz, Bernstein, et puis des compositeurs français, Gilbert Ramy, Marius Constant, Olivier Messiaen, Marcel Landowski, puis des gens qui deviendront ses amis comme Philippe Hersant. Il a été assez vite attiré par les États-Unis et par New York, mais pas que pour des raisons musicales, si j'ai bien compris.
Au départ, c'est plutôt l'Angleterre. Mm-hmm. Il est allé en Angleterre un petit peu pour apprendre l'anglais, Ma mère avait une amie à Londres, il a habité un peu à Londres, et il était très attiré, c'était, mettons, on va dire vers 68, 70, par là, très attiré par le côté rigolo de l'Angleterre de cette époque-là. Mm-hmm. C'était un peu l'époque des Beatles, d'un endroit qui s'appelait Carnaby Street, etc. Mm-hmm. Il était très chic à ce moment-là, et il avait des amis très, très chics et amusants.
Il y a un côté un peu dandy, d'ailleurs, chez lui, dans certains de ses écrits.
À cette époque-là, il était très dandy. Ouais. Et puis, une fois qu'il a eu son prix de composition à 17 ans, c'était trop jeune, quoi. Et il fallait qu'il continue, qu'il fasse autre chose. Aujourd'hui, au conservatoire, on peut continuer, mais à l'époque, c'était plus compliqué. Alors, mon père avait l'idée bizarre. Il disait, va à Moscou, parce qu'il pensait que c'est là qu'il y avait les meilleurs professeurs de piano. Et on lui disait, mais non, moi, je veux pas être pianiste, je veux être compositeur. Ouais. Et du coup, il est plutôt allé à New York.
Pour travailler avec Berio à la Jola School.
Voilà, donc ma mère avait une amie qui connaissait un violoniste qui était à l'orchestre, je sais pas, Philharmonique de New York, mm-hmm. avec Bernstein, et qui connaissait Berio, qui a présenté Berio, je crois, à mon frère. Mm-hmm. Et moi, j'ai rencontré à la mort de mon frère, il y a ses amis qui m'ont contacté, et il y a un clarinettiste américain qui s'appelle William Powell, qui habite maintenant à Los Angeles, mais qui était à Juilliard School au moment où mon frère est arrivé là. Et donc, ce clarinettiste suivait les cours de Berio. Ça l'intéressait de suivre les cours de composition. Et un jour, Berio est arrivé, et avec un jeune homme, avec des cheveux un peu longs, un peu dandy, comme ça, très bon. Et il lui a fait passer, c'est pas exactement un examen, il l'a mis au piano, il a dit, jouer quelque chose, etc. Et ce clarinettiste a dit, j'ai jamais entendu ça. Voilà, il dit j'avais l'impression que c'était Liszt qui était là, ou vous voyez quelqu'un d'extraordinaire qui jouait d'une façon fantastique et un morceau qu'il avait composé lui-même, etc. Et donc c'est comme ça qu'il est arrivé apparemment. Bon, et ce que lui raconte, c'est des choses un peu bizarres que finalement il assistait pas beaucoup à la classe, mais qu'il voyait Berio
Russian
Tea Room, et qui bavardait. Bon, mais ensuite il a servi d'assistant à Santa Fe, où il y avait un festival de musique, et Berio a créé là une œuvre qui s'appelait Opéra, au sens du pluriel de opus.
À travers les pages de ce journal de Olivier Greff, on découvre aussi, je l'ai dit en introduction, ses goûts musicaux, ce qu'il aimait, ce qu'il aimait moins. Oui. Il était absolument passionné par Mahler, par Shostakovich, et d'ailleurs, on peut dire qu'on peut en trouver des échos dans sa musique. Oui. Il adorait aussi Richard Strauss, Bach, Beethoven, et moins Wagner, Boulez, et même les Américains comme Reich, Glass. Et Adams, même s'il trouvait que Adams, son style évoluait dans le bon sens, dans la bonne direction.
Je crois qu'il a été influencé par les compositeurs américains de Californie quand il était à Juilliard School. Ça l'intéressait.
Little boy blue, come blow your horn. I'll get them an accent. The sheep's in the meadow. Where's a little boy that looks after the sheep? He's under the haystack fast asleep. Will you wake him? No, not I. For if I do, he'll be sure to cry. Thank you.
Un extrait de l'Office des naufragés d'Olivier Greff, Little Boy Blue, interprété par Françoise Kübler et l'ensemble Accroche-Notes. Un enregistrement réalisé en 2005 sous la direction de l'ami d'Olivier Greff, Philippe Hersant. Jean-Jacques Greff, j'ai parlé donc de New York, des rencontres. Donc on a parlé de Berlioz, il y a aussi Bernstein. On voit une photo, on le voit avec Bernstein. Mais il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup compté, pas forcément d'un point de vue positif, dans la vie de votre frère Olivier, c'est ce gourou bengali.
Oui, Sri Chinmoy, qui en effet habitait à New York. Et donc, il a étudié à New York, Olivier, puis ensuite, il allait assez souvent à New York voir son gourou. Alors,
Il y a eu quand même, excusez-moi, pendant plus de 10 ans, il a arrêté de composer. Il s'est totalement consacré à cette vie spirituelle.
Alors, on ne peut pas dire ça exactement, parce qu'il composait des arrangements musique, des airs par le gourou ou parfois par Olivier. Ouais. Et il faisait... Certains arrangements étaient assez élaborés avec des contrepoints à 12 voix ou je sais pas quoi, pour des chœurs qu'il a fondés, des chœurs. Il est devenu une sorte de maître de musique pour la, enfin, il faut pas dire la secte, enfin, je sais pas comment on dit, hein.
Bon. On peut se poser la question quand même.
Oui, oui. Enfin, disons le groupe. Enfin, lui et Olivier, il aimait pas beaucoup qu'on dise la secte.
Évidemment.
Du coup, on disait pour plaisanter. Et donc, il a fondé beaucoup de chorales et un peu dans tous les pays. C'est devenu quelque chose d'important pour ce groupe et pour ce gourou, parce que ils organisaient des concerts et ça servait en quelque sorte à recruter des nouveaux disciples. Donc ils jouaient un rôle très important.
Bien sûr.
Ouais. Et je sais pas, quand il fallait aller à New York, mettons, le gourou lui envoyait des billets d'avion ou des choses comme ça. C'était un peu un privilégié au sein de cet ensemble et c'était un peu comme un représentant de ce gourou pour la France, en tout cas.
Ouais,
c'est lui qui gérait les choses et qui organisait, voilà. Mais il faisait beaucoup de musique. Il faisait pas beaucoup de musique dite classique. Et
voilà,
finalement, il en a refait à un moment.
Après les années 90, oui.
Voilà.
Mais Jean-Jacques Greff, on découvre à la lecture des écrits de votre frère Olivier un besoin, et ça, dès son plus jeune âge, absolu et perdu de spiritualité.
Voilà. Donc avant de rencontrer le gourou, il était déjà amoureux de Dieu, on va dire, d'une certaine façon.
Ouais.
Et ça, c'est lié un petit peu au fait qu'il était très, très, très proche de sa mère, enfin, qui était aussi la mienne. Et ça, c'est parce que il n'est pas allé à l'école, pratiquement. Il s'est mis à faire du piano. Il allait dans une sorte de petite école un peu différente et très intéressante qui était à Saint-Cloud, l'école nouvelle de Saint-Cloud. Et là, il a appris le piano. Voilà. Il est devenu pianiste à 3 ou 4 ans. Et du coup, il s'est mis à avoir des leçons avec une répétitrice qui venait tous les jours, etc. Il prenait des cours par correspondance. Enfin, il a appris à lire et à écrire. C'est comme Mozart ou Beethoven qui ont fait ça aussi. Ils sont pas allés à l'école, ils faisaient de la musique à plein temps. Il était donc très proche de sa mère avec qui il habitait toute la journée, qui le conduisait à ses différentes leçons, etc. Et elle est tombée malade. Et il était très, très, très malheureux quand elle était malade. Elle est morte à 62 ans. Olivier a cherché un réconfort dans l'idée que les âmes survivaient à la mort. Voilà. Il a commencé par faire tourner les tables et rencontrer Mahler et Ravel, comme ça.
On lit ça dans le livre, il y a des séances spiritistes qui sont assez impressionnantes.
Voilà. Oui. Et puis, finalement, il a trouvé ce gourou qui promettait une sorte de vie éternelle.
Thank you.
Le Benedictus, extrait du magnifique Requiem pour double chœur mixte a cappella d'Olivier Greff, les BBC Singers, dirigé par John Poole, le créateur d'ailleurs de ce Requiem, une création posthume en 2001. Jean-Jacques Greff, pour terminer, on n'a évidemment pas le temps de faire le tour de cette vie absolument passionnante, très intense, épris à la fois de spiritualité, on l'a dit, côté aussi dandy, le côté gourmand aussi d'Olivier, oui. Parce qu'il raconte parfois le menu de certains bons oui. restaurants auxquels, oui. Auxquels il s'est rendu. Le côté, il aimait les défis, le marathon, jouer 47 heures de piano tout en chantant sans quasiment s'arrêter. Puis ce qui surtout je trouve passionnant, c'est ses propos esthétiques sur qu'est-ce que la modernité, qu'est-ce que l'avant-garde, oui. Qui n'ont rien perdu de leur pertinence aujourd'hui.
Oui, il avait beaucoup à dire là-dessus, parce que ça l'irritait qu'on parle d'avant-garde. C'est lui trouvait que lui c'était aussi l'avant-garde d'une certaine façon.
Ah oui, oui. Bah clairement qu'on entend sa musique, on sait bien que c'est pas, enfin on entend bien que c'est pas une musique qui était composée en 1900. Cela dit, il oppose sans arrêt l'intellect à l'émotion. Il dit qu'il recherche toujours une musique de
oui,
l'émotion.
Oui. Bah, je crois que l'art en général, aussi la littérature, ça. Il me semble que les chefs-d'œuvre touchent le cœur et l'émotion joue un rôle. Mmh. Enfin, il me semble, ça paraît évident.
Très bien, merci beaucoup Jean-Jacques Greff. Je rappelle le titre du livre que vous venez d'éditer, Olivier Greff, Journal, aux éditions Edam Musicae. J'invite tous nos auditeurs à consulter le site oliviergreff.com. Il y avait aujourd'hui Laurent Lefrançois à la réalisation, à la technique Manuel Couturier, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous bien sûr samedi prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.